Alléluia. C'est bon de se retrouver au milieu de l'été, de voir des visages familiers, de la famille d'ailleurs aussi, et vous tous qui nous rejoignez. Ce matin, sur mon cœur déjà depuis plusieurs semaines, c'est un aspect de Dieu qui travaille mon cœur, qui prend mon attention, et cet aspect de Dieu, c'est sa bonté. Et là, ceux qui étaient là la semaine dernière, rappelez-vous, plusieurs fois il y a eu cet appel et cette reconnaissance de la bonté de Dieu. Et le texte que j'aimerais prendre comme point d'appui, de départ, c'est dans Genèse 39. Et vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de Joseph. Et Joseph qui a été rejeté par ses frères, qui se retrouve en Égypte esclave, et qui est pris par par Potiphar, la maison de Potiphar. Il lui donne toute la gérance de son bien. Et donc, et là, il y a son épouse donc qui est attirée par lui, qui veut coucher avec lui, qui lui dit et qui lui résiste. Et il s'enfuit, laissant son manteau, son vêtement dans les mains de la femme de Potiphar, qu'il va l'accuser d'avoir essayé de l'abuser. Et donc il se retrouve en prison. Et donc ça c'est la première phase. Et dans cette prison, je lis juste, il est dit, après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Vois ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Et c'est ce verset-là que j'aimerais qu'on creuse. On va tourner autour ce matin quelque peu. Quelle bonté, se retrouver en prison, et avoir été rejeté par ses frères, avoir été vécu la solitude, le rejet, le déshonneur, l'accusation. Et là, dans ce lieu, eh bien Dieu l'enveloppe de sa bonté. Et je ne sais pas vos situations, mais on a tous des situations individuelles ou collectives de prison. Des choses qui ne bougent pas, des choses qui semblent verrouillées, des choses qui n'avancent pas. Des choses qu'on a l'impression, mais où est la réponse à la prière? Parce que je suis sûr que Joseph avait prié. Seigneur, c'est pas possible, libère-moi, que la vérité éclate sur moi, je ne suis pas coupable. Donc voyez, il y a eu ces prières sûrement qui sont montées à Dieu, et pas de réponse, la prison comme réponse. À force de se dire, mais est-ce que tu m'as rejeté, est-ce que tu m'as oublié? Et dans cette prison, l'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté. Et vous savez, on a parlé un peu de crainte de l'Éternel ces derniers temps aussi. Psaume 147, 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, oui, et ceux qui espèrent en sa bonté. Vous voyez, les deux marchent ensemble. Dieu est vraiment bon, mais est-il vraiment bon? Est-ce que je le crois vraiment? Quand je constate la maladie, la souffrance, la destruction, je pense par exemple aux maladies qui durent, je pense aux souffrances physiques parfois, je pense au départ des bien-aimés, ce sont des grands-parents dans l'église, il y en a eu plusieurs qui sont partis. Je pense aux situations qui semblent bloquées, hein, cette maison du tissage qui est encore, il ne reste pas beaucoup, mais décidément. Je pense aux immenses combats dans les écoles, les combats qui sont vraiment sérieux dans les écoles chrétiennes. Je pense à la situation nationale, internationale. Voyez, donc je pense à cette différence entre ce qu'on voit dans l'esprit, que ton règne vienne, et puis ce qui se passe. Donc voilà, on pourrait se dire... Est-ce que vous avez jamais entendu Dieu vous dire ceci, je suis bon, mais tu ne le crois pas vraiment. Je suis bon, mais tu ne le crois pas vraiment. Parce que, voyez, dans notre tête, on sait que Dieu est bon. On sait, on est chrétien, Dieu est bon, bien sûr, on le chante, tout ça. Mais dans nos réactions, dans nos peurs, dans nos nuits, eh bien, parfois, ça trahit qu'on pense quelque chose d'autre, en fait. Donc, cette bonté de Dieu, elle ne dépend pas, bien évidemment, des circonstances. Et donc, l'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté. Donc on l'a chanté aussi tout à l'heure, cette bonté de Dieu, elle ne dépend pas des circonstances. Nous, attention au christianisme, à la louange circonstancielle. Comme il a été rappelé ce matin, la louange ne dépend pas des circonstances. Dieu est toujours bon. Je rappelle Sam Matthews, notre ami, frère qui est parti rejoindre le Seigneur. God is good. Il commençait tous ses messages comme ça. Il nous saluait comme ça. Il avait une révélation de la bonté de Dieu. C'était un peu choquant parfois parce que décidément dans des situations un peu de souffrance, le gars qui arrive, God is good, tu dis, attends, il faudrait qu'il fasse attention quand même à pas choquer, tu vois. Mais non, révélation de Dieu. Donc la bonté de Dieu ne dépend pas des circonstances. Et l'exemple aussi de, on a vu Joseph, mais David, il y a un psaume extraordinaire, c'est le psaume 63, lorsqu'il dit ceci, ta bonté vaut mieux que la vie. Rappelez-vous, on le chante, ta bonté vaut mieux que la vie. Mais quand est-ce qu'il dit ça? Les circonstances de cette révélation de la bonté de Dieu, c'est absolument étonnant, absolument étonnant. C'était pas du tout un moment de confort, c'était un contexte de vie, de rejet, de désert, de menace et de menace de mort. Et c'est là-dedans. Et là, le psaume commence d'ailleurs, regardez, écoutez ça. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon cœur soupire après toi sur une terre aride, desséchée, sans eau. » Ça, c'était à la fois spirituel, mais c'était physique aussi. Et ensuite, ce psaume continue et termine par « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Donc, et ensuite, « Je te contemple dans le sanctuaire. » Donc il détourne son regard de la situation, du désert, de la soif, tout ça. Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Et c'est là qu'il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. On est quand ta bonté vaut mieux que la vie. Nous, la bonté de Dieu, on la voit pour préserver notre vie. On la voit pour nous guérir, pour nous faire du bien, pour nous épanouir. Mais David arrive à cette perception de la bonté de Dieu qui vaut mieux même que la vie. C'est impressionnant dans ce contexte. Quelle révélation de la bonté de Dieu. Il n'est pas dans le temple de Jérusalem là, hein. Il est dans le désert. Il fuit devant ses ennemis. Et donc on pense que c'est durant sa fuite avec Absalom, de la révolte d'Absalom. Et donc c'est là qu'il découvre cette bonté de Dieu. J'aimerais donner un autre exemple, plus contemporain. Mais c'est l'exemple de Dietrich Bonhoeffer, théologien, pasteur allemand, qui a résisté au nazisme et qui a bâti des communautés, qui a formé des pasteurs alors que c'était interdit, qui fait une scission avec l'église officielle qui courbait les chines devant le nazisme. Et ce Bonhoeffer, donc, il a comploté contre Hitler, parce qu'il a dit il faut agir. Il a dit il faut prier, mais il faut agir. Et donc il a été condamné, donc d'abord en prison, le temps qu'il fasse les enquêtes, et ensuite condamné à mort, exécuté 9 avril 1945. Mais pour lui, la bonté de Dieu, il en parle beaucoup dans plusieurs de ses ouvrages, dans ses lettres qu'on a retrouvées de sa prison. La bonté de Dieu ne se mesure pas à l'absence de souffrance, mais à la présence fidèle de Dieu au milieu de la souffrance. Ça, c'est la révélation de la bonté de Dieu. Donc, l'une des affirmations les plus célèbres est tirée d'une de ses lettres, écrite en prison en juillet 44, et quelques mois avant, donc son exécution, et il dit ceci, « Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien de toute chose, même de la plus mauvaise. » Et pour cela, il a besoin d'hommes qui sachent faire concourir toutes choses à leur bien. Donc, qui voient en fait que la bonté de Dieu n'est pas épuisée et que tout concourt à ce bien. Dieu est suffisamment bon et souverain pour tirer un bien réel du mal le plus terrible. Alors, Dieu n'est pas l'auteur du mal, bien sûr, mais il utilise le bien pour le changer en bien. C'est Romains 8, 28, etc. Donc la bonté de Dieu est plus forte que la brutalité. Et sa résistance a été une résistance qui était... Il paraît que les derniers moments, il était bon envers ses geôliers, plein de douceur, plein de bonté, plein d'affection. Et jusqu'au bout. Et donc, vous voyez, la bonté de Dieu n'est pas une force qui nous met à l'abri du mal. Voilà. C'est un amour qui entre dans le mal pour le vaincre de l'intérieur. Ça, c'est la puissance de la résurrection de Jésus. C'est la bonté de Jésus. Il rentre dans le mal, il le pénètre et il le fait exploser de l'intérieur. Donc on n'est pas en dehors, on n'est pas protégé dans le sens monde des bisounours, dès que j'ai un bobo, Seigneur, tu me protèges. C'est pas ça que ça veut dire. Et donc la bonté de Dieu, c'est pas ça. C'est pas une bonté, vous voyez, avec nos définitions à nous. Et cette bonté, révélée à Joseph, révélée à David, révélée à ce Dietrich Bonhoeffer, il nous est demandé d'y demeurer. Psaume 94, hein, quand mon pied chancelle, écoutez ça, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Donc cette bonté, vous voyez, elle est justement là, quand il semble que tout chancelle. Cette révélation de la bonté, elle est là. Romains 11, 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Vous voyez, l'idée, c'est pas seulement d'avoir une révélation de sa bonté, mais de demeurer ferme dans cette bonté. Et il est dit autrement, tu seras retranché, ça c'est le contexte avec Israël, Romains 11. Mais l'idée, c'est que si on ne tient pas ferme dans la bonté de Dieu, eh bien là, on est en danger. Là, vraiment, on est en danger. On peut vaciller, on peut laisser tomber. On peut tomber dans l'accusation, dans la déception, dans le désespoir. Donc Dieu nous invite à demeurer dans cette bonté. Avoir la révélation de sa bonté, demeurer dans cette bonté. Alors pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à croire vraiment à cette bonté? Et bon, je dis que souvent, on dit que Dieu est bon, mais on vit comme s'il ne l'était pas. Vous voyez, ça nous arrive à tous, hein. On sait qu'il est bon, on dit qu'il est bon, on sait qu'il est bon, mais on vit comme s'il ne l'était pas. Dans certains domaines de nos vies, pas partout, dans certains domaines. Et donc, je pense que l'important, c'est un moment de le reconnaître. De le reconnaître. Seigneur, je reconnais qu'en fait, je sais que tu es bon, mais je ne crois pas vraiment dans cette situation. Vous voyez ? Donc, commencez par le reconnaître. Ça s'appelle l'humilité. Le christianisme, ce n'est pas la méthode Coué. À force de répéter que Dieu est bon, tu vas vraiment le croire. Non, 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 c'est pas la méthode Coué. C'est pas la répétition. Voyez. Mais c'est vraiment, déjà, la transparence. Seigneur, ben, me voici, avec mon incrédulité. Donc, reconnaître que vraiment, il y a des domaines où je ne crois pas que tu es bon. Il y a des domaines où j'ai été déçu. Déçu de toi. Ça, c'est difficile à l'avouer. Déçu de Dieu. Moi, j'ai rencontré des gens bloqués dans leur vie chrétienne et en fin de compte, déçus de Dieu. Ah ben, si vraiment Dieu est bon, il n'aurait pas permis ça. Et je pense à des décès de conjoints parfois. Et on a vécu cette situation dans l'église parfois. Et donc, du coup, ça, il y a des personnes qui ont complètement vrillé suite à ça parce que ça allait à l'encontre de leur idée de la bonté de Dieu. D'où l'importance de savoir que Dieu est bon, de l'accepter, d'accepter quand on est, d'être vulnérable, quand on n'y croit pas vraiment, et puis de venir à lui, comme le fils prodigue, sur le fondement de sa bonté. Le regard qu'il a sur nous, même dans tes échecs, dans tes déceptions, il n'est pas là pour te rejeter. Et donc, venir à lui sur le fondement de sa bonté. Seigneur, parce que tu es bon, je reviens à toi. Donc ça me paraît vraiment déterminant. Regardez, il y a un texte extraordinaire dans les Écritures, Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Voilà, ça c'est Jérémie déprimé. Vous savez, les prophètes sont souvent déprimés. Parce qu'ils ont un rêve de Dieu, de restauration, de guérison, et ils voient la situation réelle du pays, et cette tension, ça les faisait disjoncter parfois. La tension entre la vision de Dieu de restauration et une réalité. Et donc Jérémie dit ceci, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Tout d'un coup, il se ressaisit. « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que sa fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. » pour l'âme qui le cherche. Donc ça, c'était, on retrouve le même shift, le même déplacement de position que dans le psaume de David. C'est-à-dire, détresse, je pense à l'absinthe, je pense à la détresse, je pense à mon désespoir, ma détresse. Et tout d'un coup, tac, je change de regard. Mais je te contemple, Seigneur. Je contemple ton sanctuaire. Et je vois ça, ce que je repassais dans mon cœur. Voilà. Donc ça, la plus grande déception, en fait, les plus grands échecs, peuvent devenir les plus grandes victoires. Et c'est souvent ça, d'ailleurs. C'est souvent ça. Les grands hommes de Dieu ont connu des grands échecs et des grands rejets. Ça fait partie du process. Et c'est souvent, c'est pas une fois comme ça, c'est régulièrement. Et Dieu travaille nos vies et nous creuse dans la révélation de sa bonté. Donc Joseph, il s'est pas laissé emprisonner par la déception, l'offense, hein, l'offense, l'échec, la solitude, mais il a pu continuer à avancer grâce à ce cœur, cet enveloppement de la bonté de Dieu et cette certitude que Dieu est bon. Et Ésaïe 36, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles qu'on respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Impressionnant comme histoire ça. Hein? Mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Quelle révélation de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, la révélation de la bonté de Dieu, vous savez ce que ça produit? Ça produit la foi. Ça produit la foi. Et vous connaissez l'histoire de Georges Müller, ce pasteur du 19e qui était qui a monté un orphelinat par la foi, hein, sans finance, sans rien. Et sa biographie a été écrite dans un livre qui s'appelle L'audace de la foi, extraordinaire. Et donc il a dit ceci: plus nous connaissons la bonté de Dieu, plus il nous est facile de lui faire confiance. Et c'est lui qui parle de ces plats des orphelins qui n'avaient rien à manger à midi, et il dit on va prier, on va remercier le Seigneur pour le repas, devant les assiettes vides. Et il remercie le Seigneur, et ça toque à la porte, et le repas vient. Ça c'est Georges Müller. Relisez. Donc, vous voyez, cette certitude que Dieu est bon, et donc ça produit la foi. Spurgeon, grand prédicateur du 19e en Angleterre, Dieu est trop bon. Dieu est trop bon pour être cruel, trop sage pour se tromper. Quand nous ne pouvons suivre sa main, nous pouvons faire confiance à son cœur. C'est-à-dire quand on ne comprend pas ce qu'il fait. Vous voyez, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Mais on peut faire confiance à son cœur, parce que son cœur est bon. Martin Luther disait, la foi consiste à croire que Dieu est bon et qu'il est bon pour moi. Et il est bon, oui, il est bon, mais est-ce que tu crois qu'il est bon pour toi? Vous voyez, la foi, et donc c'est intéressant comme définition de la foi, hein, c'est une des définitions, c'est croire que Dieu est bon et que Dieu est bon pour nous. Donc la révélation de la bonté de Dieu, elle marche avec la foi et la révélation de la foi. Plus il y a révélation de la bonté, plus il y a la foi. Et je dirais la tranquillité. Tout à l'heure on disait, c'est fatigant d'être incrédule. C'est crevant, ça nous donne des angoisses, ça nous stresse, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon, pas bon pour l'âme, c'est pas bon d'être incrédule. Donc la foi, ça se base sur cette bonté de Dieu. Et quelques versets que vous connaissez, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité durera toujours. Vous voyez, bonté, fidélité, fidélité c'est foi, hein, foi en nous, foi en lui. Psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, sa fidélité de génération en génération. Psaume 40. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Psaume 89. Je lui conserverai toujours ma bonté, dit Dieu, et mon alliance lui sera fidèle. Et puis un psaume que vous connaissez, le 143. Fais-moi dès le matin entendre quoi? Entendre ta bonté, car je me confie en toi. Vous voyez le lien? Fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Donc la foi, c'est pas quelque chose qui est comme ça, complètement irrationnel. La foi chrétienne, c'est une foi qui se base sur la certitude de la bonté de Dieu. Et ça, c'est une révélation de Dieu. Il est bon, et il est toujours bon. Il y en a qui disent, oui, mais quand même, il est aussi juste, tout ça. Oui, mais sa justice, c'est le fruit de sa bonté. Tout, il est bon, profondément bon, en toute chose. Et donc, voyez, dans ta bonté, psaume 143, anéantis mes ennemis. La bonté est une puissance d'anéantissement du diable. La révélation de la bonté de Dieu anéantit l'ennemi. C'est une arme spirituelle. Toute révélation de qui est Dieu est une arme spirituelle. Et donc, la révélation de la bonté de Dieu, mes amis, ça, l'ennemi ne peut plus te toucher. Il peut plus, enfin, te toucher, il peut plus t'écraser. Tu sais que Dieu est bon. Et même s'il te teste, etc., comme Job, etc., il te teste, mais tu sais que Dieu est bon. Ma foi ne peut aller que là où j'ai la compréhension de sa bonté. La foi, ta foi, ma foi, ne peut aller que là où j'ai la compréhension de la bonté de Dieu. Ce que nous croyons au sujet de Dieu, de sa nature, de sa bonne nature, a un effet mesurable sur notre vie. Notre vie est toujours marquée, on le sait, hein, parce que nous croyons, ou pas, au sujet de Dieu. Si nous croyons tordus, nous allons vivre tordus. Donc soyons les témoins de la révélation de Dieu, sa bonté sur nous, sa bonté au travers de nous. Psaume 13, moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Et le psaume 27, on pourrait aller comme ça, je ne veux pas trop m'étendre, mais le psaume 27, tout le psaume 27 part de la bonté de Dieu aussi. L'Éternel est ma lumière et mon salut, et vous avez une révélation de la bonté de Dieu. Donc c'est quand même étonnant, les psaumes qui sont des psaumes de louange sont des psaumes de révélation de la bonté de Dieu. En fait, l'adoration et la louange, c'est fondé sur la certitude de la bonté de Dieu. Pour ça qu'on peut le louer, même dans des circonstances difficiles, parce qu'on connaît la bonté de Dieu. Donc, dans le psaume, vous pourrez le lire chez vous, on ne va pas le faire là, mais dans le psaume 27, vous avez, ça commence par la confiance en Dieu, la valeur suprême de sa présence, la dévotion, l'obéissance promise à Dieu, et le grand final de ce psaume, je cite, « J'aurais désespéré si je n'avais pas cru que je verrais la bonté du Seigneur, écoutez ça, sur la terre des vivants. » Il ne s'agit pas « je verrai ta bonté quand j'irai au ciel ». Il s'agit de la certitude de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Parce que la bonté, c'est l'atmosphère du ciel. Et l'atmosphère du ciel, c'est notre prière que ton règne vienne. Donc que ta bonté se manifeste. Écoutez ça donc, j'aurais désespéré si je n'avais pas cru que je verrais la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Oh, si je n'étais pas sûr de voir ta bonté, l'Éternel, sur la terre. Espère en l'Éternel, fortifie-toi que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Donc c'est l'espoir de voir la bonté de Dieu en son temps qu'il a préservé Joseph du désespoir, ou David. Donc cette bonté de Dieu, comme chaque attribut de Dieu, Dieu nous demande de le chercher. Psaume 127, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Donc chercher sa face, il a une face, il a plusieurs faces aussi, des attributs de Dieu. Mais l'attribut de la bonté de Dieu, ça se cherche. Ça se cherche. La révélation de Dieu ne vient pas. Tu es là, tu dis, Seigneur, révèle-moi. Non, non. Il y a une recherche, il y a une quête, il y a une soif. Et ça, Dieu répond à ceux qui l'invoquent et à ceux qui ont soif. Si tu as soif de sa bonté, cherche sa bonté. Recherche-la dans les Écritures, dans le temps avec lui. Exode 34, 6, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Cette révélation de Dieu, qui est bon dans sa nature, mais qui est bon parce qu'il fait du bien, c'est sa nature et ses actes sont bons. Donc cette révélation de Dieu a accompagné tout le peuple d'Israël. Il serait faux de dire, le Nouveau Testament, c'est la révélation de la grâce, et l'Antécédent, c'est la loi. C'est une aberration, parce que la loi est le fruit de sa bonté aussi. Et vous avez les textes étonnants dans cette loi, « Aime ton prochain comme toi-même », c'est dans la loi lévitique également. Donc, arrêtons de faire la séparation. Il n'y a pas de séparation. Tout est dans la grâce. C'est une révélation de la bonté de Dieu. Elle est du début à la fin des Écritures. Donc, on voit ici que cette distinction de Dieu qui est bon et de Dieu qui est bon par ses œuvres, elle est aussi très importante. Et puis, un psaume qui dit « La bonté de l'Éternel remplit la terre ». Alors ça, c'est étonnant. Tu te dis, mais comment, avec les incendies, avec les guerres, comment je peux dire la bonté de Dieu? Comment le psalmiste a pu dire la bonté de Dieu remplit la terre? La terre est marquée par le mal, mais elle n'appartient pas au mal. Hein. Elle appartient à Dieu dont la bonté soutient encore aujourd'hui la vie, dont la bonté, elle accompagne tous les souffrants. Elle prépare la restauration de toutes choses. Tout ce qu'il a créé est bon, rappelez-vous Genèse, tout ce qu'il recrée est bon. Et donc cette bonté de Dieu, la gloire de Dieu, et on la voit encore, malgré le péché, on voit cette gloire. Si tu as les yeux pour voir les petites choses, un regard d'enfant, une fleur, un animal, une nature, des petites choses, Dieu manifeste sa gloire. Et donc ça, il faut qu'on ait ses yeux pour voir cette gloire. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder. Donc Dieu dit, voilà, j'ai caché les choses pour que tu les cherches et que tu les sondes. Donc ma bonté, elle n'est pas toujours évidente, mais je veux que tu la cherches et que tu la vois. Et donc Dieu se cache parfois des choses, mais le grand privilège que nous avons, c'est que nous avons accès à tous ces trésors qui nous donnent libre accès. Et sa bonté, elle est disponible. Elle se prend par la foi aussi, elle se médite. Et Moïse, alors j'aimerais voir l'épisode de Moïse qui est absolument extraordinaire. C'est un petit détail, mais je ne sais pas si vous avez vu, dans l'épisode du buisson ardent, le buisson, il y a eu du feu sans se consumer, et il est dit ceci. C'est que, je cite, hein, « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, je me voici. Regardez, il a détourné pour regarder ce buisson. Il a détourné de tout le reste pour regarder ce buisson. Et Dieu dit, parce qu'il a regardé, parce qu'il a cherché à voir, eh bien moi je vais lui parler. Donc la parole de Dieu est venue quand il s'est détourné. Il y a vous savez, le divertissement, c'est un grand philosophe français, la Pascal, qui disait un des plus grands problèmes de l'homme, c'est de se divertir. C'est-à-dire de se décentrer de lui-même et de Dieu par toutes sortes de distractions qui en fait le distraient des choses essentielles. Et donc, cette distraction fait qu'on se détourne de Dieu. Mais Dieu voudrait, comme Moïse, qu'on se détourne de tout ce qui nous détourne de lui, et du coup, la parole de Dieu, elle vient. Donc, parfois, le fait d'accorder toute son attention, c'est ça, chercher Dieu, c'est accorder son attention à Dieu lui-même, à un aspect de sa personne, ça permet une plus grande rencontre avec lui, et une plus grande révélation de qui il est. Dieu donne des cadeaux à ceux qui demandent, à ceux qui cherchent, à ceux qui frappent. Donc la bonté de Dieu, c'est quelque chose qui se cherche comme tout le reste des trésors du Seigneur. Dieu nous a donné accès à l'inaccessible. Et donc cette bonté, voilà, il dit, mais cherche-la, je suis bon, mais pour que tu le crois vraiment encore plus, cherche-moi dans cette bonté. Et bien sûr, on cherche d'abord dans les Écritures, et je peux vous assurer que Dieu aime se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Donc il nous manque tout ce qui est nécessaire parfois pour pouvoir appréhender ce qui existe dans le domaine appelé la bonté de Dieu. Mais Dieu nous a promis, ben voilà, ce qui est inaccessible normalement, eh bien je le rends accessible pour toi. Je le rends accessible pour toi. Parce qu'il est lui-même la clé de la porte qui ouvre au trésor de qui il est. Donc ça c'est vraiment vivre des grandes aventures ça. Hein. On sait, il y a des territoires inexplorés de Dieu. Quelles que soient nos années de marche avec lui, il y a des territoires inexplorés. C'est comme aussi dans un couple, on n'a pas fini d'explorer, de découvrir des territoires inexplorés du conjoint. Parfois on dit, waouh, ça j'avais pas vu, ou de nos enfants. C'est pareil avec Dieu, il y a toujours des choses qu'il aimerait nous faire découvrir à nouveau. Voilà, donc sa bonté en fait, elle nous transforme. Et c'est ça, j'aimerais vraiment un point insistant là-dessus, la bonté nous transforme. Romains 2, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Mes amis, ce n'est pas les doigts d'accusation qui vont t'amener à la repentance. Moi je connais malheureusement des pratiques dans des églises où on pointe le doigt sur le péché, on te dit « mon ami, il faut te repentir ». Ça n'a jamais conduit à la repentance, l'accusation. même sur des choses vraies. Jamais. C'est la bonté de Dieu qui produit la repentance. Et cette bonté de Dieu, c'est quand, vous voyez, quand il y a des gens insupportables autour de toi, eh bien écoutez-moi, tu les aimes jusqu'à ce qu'ils deviennent ce que tu aimerais qu'ils soient. Ça, c'est la bonté de Dieu. Et Dieu nous aime jusqu'à ce qu'on devienne ce qu'il a prévu qu'on soit. Donc c'est la bonté de Dieu qui nous transforme, qui nous pousse à la repentance. C'est ça. Il n'y a pas d'autre chose. Donc attention à... Lorsque il y a l'accusation, c'est souvent l'accusation des autres, c'est souvent parce qu'on vit l'accusation soi-même et qu'on n'a pas vu la bonté de Dieu. Et parfois devant le péché de quelqu'un ou d'un frère ou d'une sœur, on peut parfois que pleurer et le prendre dans nos bras. La bonté de Dieu produit la repentance. Elle nous fait devenir grands. Psaume 18, tu me soutiens et je deviens grand par ta bonté. C'est pas tes efforts, hein. C'est pas même ton obéissance qui te rend grand. C'est sa bonté. C'est sa bonté. Et dans sa bonté, il te donne sa justice, il te donne sa sainteté, il te donne sa sagesse. Dans sa bonté. Et je termine l'expérience de Moïse. Vous connaissez, c'est un texte extraordinaire. C'est vraiment... Lorsque Moïse était... Je lis, c'est Exode 33. Et puis, il y a un moment... je lis pas tout, mais bon, il y a un moment où il dit, à la fin, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Ça, c'est le cœur de Moïse. « Fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel me dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras dans le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Lorsque Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, Dieu lui a montré sa bonté. Vous savez, l'être humain, il a été créé pour quoi ? Dans toutes les Écritures et dans toute la tradition de l'Église, on voit que l'être humain a été créé pour la gloire de Dieu. Nous sommes nés pour donner gloire à Dieu. Et donc cette gloire, ça va avec sa bonté. Il n'y a pas de gloire sans bonté. La bonté est le chemin de la gloire. Et donc ce que nous avons été créés, nous avons été conçus pour vivre dans la gloire de Dieu. La Bible dit, Romains 3, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché qui a été aboli par le pardon de Jésus, c'est pour qu'on vive dans la gloire. C'est cette idée. Ça veut dire sa présence, ça veut dire sa bonté, ça veut dire son amour. Donc la cible, c'est la gloire de Dieu. On a été créé et recréé, né de nouveau, pour cette gloire. Et donc, cette gloire, intéressant, lorsque Moïse descend de la montagne, après, il a les deux tables de la loi, tout ça, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il avait vécu la gloire de Dieu. Donc ça, il avait vécu la révélation de sa bonté. Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu. Dieu dit, c'est ok. Il a montré à Moïse sa bonté. Prenez note. C'est sa bonté. Écoutez ça là. C'est sa bonté qui a changé le visage de Moïse. C'est la rencontre de la bonté de Dieu qui a changé son visage. Et la seule fois où le visage de Moïse a changé, c'est après cette révélation-là. Est-il possible que Dieu ait l'intention de changer le visage de son peuple par une nouvelle révélation de sa bonté ? Je répète, est-il possible que Dieu ait l'intention de changer le visage de son peuple par une nouvelle révélation de sa bonté? Que se passerait-il si le monde voyait une église dont le visage était transformé par la vue de sa gloire et de sa bonté? Vous voyez, mes amis, une église qui connaît la bonté de Dieu, elle manifeste sa gloire. Une église qui manifeste sa gloire connaît sa bonté. Les deux vont en même temps. la révélation et la proclamation de sa bonté, ça va avec la manifestation de sa gloire. Et je termine par ce texte dans 2 Chroniques 13, verset 5, chapitre 5, verset 13 et suivant. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés pour observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jedutun, leurs fils, leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luths, des harpes, et y avait auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer pour lui l'Éternel avec ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, et en ce moment, la gloire remplit la maison. La révélation de la gloire de Dieu, de la bonté de Dieu, va avec la gloire. Chanter la bonté de Dieu amène sa présence et sa gloire. La révélation de sa bonté est le socle de nos vies, de notre foi, sur lequel nous sommes appelés à devenir grands. Alors voyez, chanter la bonté, louer la bonté de Dieu. Dieu bâtit son église, une église sans tache, glorieuse. Glorieuse, ça veut dire une église qui a la révélation de sa bonté. Une église qui connaît sa gloire. Rappelez-vous cet épisode, peut-être j'ai déjà souvent rappelé, mais le journaliste qui va voir Mère Teresa à Calcutta et qui lui dit, mais comment vous pouvez embrasser des lépreux? Et elle dit, parce que je vois dans chaque lépreux le Christ. Elle voyait la gloire dans un lépreux. Alors imaginez un peu, ça a changé sa vie, ça a bouleversé toute son action. Elle a vu la gloire de Dieu dans les plus misérables. Et cette gloire de Dieu, ces vestiges de la gloire de Dieu, quand le péché a ravagé, la maladie a ravagé, ils sont encore là et ils parlent de Dieu. Et nous sommes appelés à l'espérance de la gloire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les hommes qui êtes ici, écoutez bien, Proverbe 19, verset 22, ce qui fait le charme d'un homme, vous savez ce qui fait le charme d'un homme? C'est sa bonté, c'est sa bonté. Ce qui fait le charme d'un homme, tu veux charmer? Sois bon. Ça, c'est intéressant quand même. Bon, je pense que dans le texte, homme, ça voulait dire homme et femme aussi. Si on prend le... Il faudrait regarder d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Être bon. Christ en nous, l'expérience de la gloire. Donc, je termine. Choisissons de croire en sa bonté. Cherchons sa bonté. Goûtons sa bonté. Vivons de sa bonté. Manifestons sa bonté. La vision de l'Église, c'est être une famille qui célèbre la présence de Dieu, manifeste son amour, manifeste sa bonté, et puis incarne son royaume. Donc voyez, l'Éternel était avec Joseph, il est avec toi, il est avec moi, quelle que soit ta situation, et il étend sur toi sa bonté. Le monde ne sera pas convaincu par nos discours, mais il sera convaincu par une église transformée par la bonté de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Et Seigneur, cette bonté se renouvelle parce qu'il y a toujours à trouver plus grand encore. L'expérience de ta bonté qu'on a faite, eh bien encore beaucoup à vivre. Seigneur, nous voulons être des chercheurs de qui tu es, des chercheurs de ta bonté, des chercheurs qui trouvent, des chercheurs qui reçoivent et des chercheurs qui se laissent transformer par la révélation de qui tu es. Seigneur, merci Seigneur d'étendre cette bonté sur nous tous, sur ton Église, sur chacun de nos enfants, petits-enfants, ascendants, sur tous ceux qui souffrent, sur tous ceux qui sont dans la maladie. Étends ta bonté sur ceux qui sont dans les prisons de la vie. Seigneur, tu es bon et nous devenons grands par ta bonté. Au nom de Jésus. Amen.